Prenez garde. C'est les infos.
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You better let your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shoe. You mid summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice couldn't say you see.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, ce soir, mercredi soir, c'est 19h02 là tout de suite, et c'est donc l'heure enfin du Canu Info. Avec. Mais pourquoi est-ce que je m'entends pas? C'est normal, vous m'entendez, vous?
On t'entend, on t'entend.
On t'entend très bien. Canu Info du mercredi X juin.
15. On a pas le 15?
15 juin.
Ouais. Et voilà, et ce soir, on va vous parler de plein de petites choses, mais on va pas vous faire la liste à l'avance. Voilà. Pour une fois, vous allez découvrir au fur et à mesure.
Et ben du coup on va commencer par un petit délire. Mon âge est en plein délire avec Hollande qui veut interdire les manifestations à risque et Stéphane Le Foll qui a déclaré qu'il n'y aura plus d'autorisation à manifester si les biens et les personnes sont menacés. Bon, alors d'une, il n'y a pas d'autorisation à manifester. Pour la version la plus réglementaire, il faut simplement faire une déclaration en préfecture en temps et en heure avec le parcours. Sinon, il reste encore les manifs sauvages, ça marche très bien. Et deuxièmement, on a du mal à savoir comment Hollande compte prédire à l'avance qu'une manif est à risque ou pas. Soit il va regarder dans sa boule de cristal, et bon, là, je pense qu'elle sera plutôt occupée à lui annoncer qu'il sera plus là dans un an. Soit il va faire appel au service de renseignement de la police et de la préfecture. Et là, je doute que ce soit bien plus fiable qu'une boule de cristal. Bref, tout ça parce qu'ils ont fait monter une espèce de réaction. Il fallait montrer une espèce de réaction assez forte vis-à-vis des vides prisées de l'hôpital Necker. Là, vous avez entendu parler de cette histoire. On va pas s'amuser ici à parler des motivations ou non des manifestants qui ont fait ça parce qu'on s'en fout même royalement. On peut juste noter que certes, ça va coûter peut-être plusieurs milliers d'euros pour changer les vitres, mais bon, il y a des assurances qui sont faites pour ça, et sûrement des gens qui ont eu peur à l'intérieur, et voilà. Mais alors, faire tourner ça en boucle dans tous les médias toute la journée, ce matin, entre France Inter, France Info et tout, bon, on sait quand même pas trop si ça allait le coup. Donc voilà, et les médias, bien sûr, tous les politiques ont fait leur petite déclaration pour faire tirer un peu l'alarme aux gens là, comme ça, où les gens ils vous ont fait un espèce de rapprochement dégueulasse avec le gamin qui a vu ses deux parents se faire buter là, les deux flics qui se sont fait buter hier, ou je sais pas quoi là. Voilà, par contre, la véritable, on peut juste noter que la véritable casse de l'hôpital public pour les suppressions de lits et de postes, là, c'était un peu moins spectaculaire dans les médias et donc un peu moins présent. Et puis les politiques, bon, là, ils n'avaient quand même pas s'éterniser là-dessus, puisque c'était bien lors de leur décision qu'il s'agissait. Et pas grand-chose non plus sur le manifestant qui s'est pris une grenade dans le dos juste avant cette histoire de l'hôpital Necker, là, où en gros, il s'est pris une grenade. Une grenade lacrymogène qui a été tirée en tir tendu, vu qu'il l'est pris vraiment au niveau de la colonne, ça pouvait pas être en cloche comme c'est obligatoire. Et donc voilà, il s'est retrouvé, alors un photographe sur place, il témoigne, il dit j'ai vu le projectile lui rentrer dans le dos, rester dans le dos, continuer à balancer de la lacrymo alors que le gars avait toujours avec toujours la grenade plantée dans son dos, et il s'est retrouvé avec un trou de 5 cm de dans le dos, quoi. Donc voilà.
Ah ouais.
Bon, a priori, ces joueurs ne seraient pas en danger. Les derniers communiqués disent que la moelle épinière ne serait pas touchée. Mais voilà, le type est parti dans un sale état. Voilà, ça, il y a la personne qui s'est pris une grenade de désencerclement dans la tempe. Et on sait toujours, enfin, il s'est réveillé du coma artificiel, mais on ne sait toujours pas s'il va avoir des séquelles ou pas. Et c'est plus tous les autres blessés et mutilés qu'il y a eu dans ces manifestations, qui étaient quand même vraiment, vraiment bien plus importantes que d'habitude.
Voilà, juste pour continuer sur cette polémique sur l'hôpital Necker, il y a des parents d'enfants qui étaient donc du côté de Necker qui se sont complètement désolidarisés de cette façon dégoulinante et voilà, un peu scandaleuse d'associer ce qui s'est passé. Donc là, il y a eu quelques vitres cassées et puis la douleur des enfants dans cet hôpital, etc. Donc il y a eu vraiment en particulier Valls qui en a fait des caisses et donc des parents d'enfants qui se sont désolidarisés de cette façon-là de faire. Et la deuxième chose, c'est que interdire des manifs parce que c'est violent, bon alors pourquoi pas, mais est-ce qu'on pourrait pas interdire l'euro aussi?
Ah oui, grande question.
Et alors si c'est parce que c'est violent, est-ce qu'on pourrait pas interdire la police?
Voilà, à propos d'interdiction à RTL, les neurones visiblement sont interdits. En tout cas, c'est Olivier Mazerolle qui est ce qu'on fait de plus, on va dire, c'est un peu le nec plus ultra du journaliste réac. Alors lui, justement, il a parlé des violences du match Russie-Angleterre. Et puis, donc, il a interviewé Stéphane Le Foll, enfin, qui est un des ministres actuels, et qui lui a dit, non mais attendez, vous vous rendez compte, ces violences à Marseille qui étaient réelles, hein, il parle de ce qui s'est passé dans le Vélodrome, dans le stade de foot, et il dit, on voit même à un moment donné un homme brandir une pelle. Voilà, donc après toute une histoire sur pourquoi il y avait un homme qui brandissait une pelle.
Non mais Stéphane Le Foll, c'est pas le ministre de l'agriculture.
C'est ça.
Et donc il s'inquiétait du fait que la pelle était mal utilisée. C'est
ça. Voilà, peut-être. Toujours est-il que voici un journaliste donc du côté de RTL qui avait oublié ses neurones aux toilettes. Il se trouve que le personnage qui avait la pelle dans les mains, c'était l'homme en slip. C'était une des personnes les plus célèbres de l'année dernière. C'était un Landais qui avait dégagé la LPO, donc la Ligue Protectrice des Oiseaux et des journalistes de son pré, et il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui avait pris une photo et on le voit en slip en train de balancer un coup de pelle. Donc ça a été un affreux photomontage. Donc cet homme en slip s'est retrouvé dans le Vélodrome, bien sûr pas réellement mais complètement virtuellement par le fait d'un montage. Et donc voilà comment chroniqueur vedette de RTL, journaliste en plus, néanmoins réac, peut broder là-dessus sur quelque chose de complètement faux.
Ok, alors puisqu'on parle d'absence de neurones, alors on a qu'à aller faire un petit tour du côté du Tennessee, où un représentant républicain, donc soutien du candidat Donald Trump, a organisé une tombola pour sa fête du cochon et tir de dinde. Hein, les Américains ont quand même des amusements rigolos.
Du cochon et du tir de dinde, t'as bien dit ça.
Ça va avoir lieu le 25 juin et le gros lot de la tombola, ça sera deux AR-15, c'est-à-dire le fusil d'assaut, exactement le même que celui qui a été utilisé par Omar Mateen, Omar Mateen. Omar Mateen, dans le gars qui est allé tuer des homos à Orlando. Alors, l'élu républicain a justifié son initiative en disant que cette attaque meurtrière n'a rien à voir avec le type d'arme. La question n'est pas le type d'arme. Et la question, c'est la personne qui tient l'arme.
C'est pas les armes tout court.
Et donc, mais c'est ça, c'est pas non plus pour lui les armes tout court. Et il rappelle qu'un AR-15 peut être utilisé pour chasser, qui est quand même toujours une occupation saine pour un Américain, pour s'entraîner dans des stands de tir et se défendre soi-même. Et donc, il n'ajoute pas, ou pour faire des tueries de masse à l'école, dans des boîtes gays ou n'importe où ailleurs.
Et il a un lien quelconque avec la NRA, lui ?
Eh bien, bien sûr, ce monsieur Holt est fervent militant de la NRA, donc la National Rifle Association, l'association très puissante aux États-Unis qui promeut l'armement des citoyens, le fait qu'on puisse continuer à posséder légalement des armes aux États-Unis, à les posséder, à se trimballer avec, etc.
Et tellement puissante que si on en croit la bonne foi de Barack Obama qui a priori, il aurait bien voulu légiférer là-dessus, rend impossible toute légifération sur le.
Ah oui, oui, enfin, rend impossible. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés. Après, c'est un combat qui continue aux États-Unis entre les pro-armes et les anti-armes. Et en sachant qu'en réalité, dans le camp des anti-armes, il y a quand même, bon, du coup, il y a Obama, il y a Hillary Clinton, qui sont des gens qui voudraient quand même bien, si ce n'est interdire toutes les armes pour tout le monde, au moins compliquer un peu l'accès aux armes de guerre, aux armes à répétition, aux armes les plus potentiellement dangereuses. Et donc ce monsieur Holt toujours a soutenu de nombreuses initiatives de la NRA et la dernière en date qui sera présentée au vote l'année prochaine vise à permettre aux employés des universités du Tennessee de porter des armes dans les campus universitaires. Donc bien sûr toute leur argumentation à ces gens-là, c'est de dire que si tout le monde a des armes, le jour où il y a un dingue qui se met à tirer dans la foule, eh ben il sera vite abattu. Ce qu'il y a, c'est que si un dingue qui tire dans la foule, il aura toujours le temps de buter quelques personnes avant d'être abattu, quand bien même tout le monde serait armé autour de lui, et ça ferait toujours quelques morts. Alors que si le dingue en question a du mal à se procurer une arme, eh ben ça va toujours être plus compliqué. Mais ça, non, la NRA, c'est pas trop leur manière de penser.
Alors on revient plus sur des questions de droits des travailleurs travailleuses avec une alerte que l'on peut retrouver sur l'Observatoire des multinationales, donc qui est une espèce de petit regroupement qui essaie de voir à quel point les multinationales sont reluisantes sur plein d'aspects, bien sûr. Voilà, alerte sur les dégradations des droits des travailleurs et travailleuses dans le monde. C'est la Confédération syndicale internationale qui regroupe 330 organisations syndicales dans 162 pays. Ça fait 300 hein, qui font ça, ils font une enquête, et bien ils alertent donc sur l'affaiblissement de ces droits. Non seulement de nombreux pays dans le monde ne reconnaissent que très partiellement ou pas du tout les droits syndicaux les plus basiques, alors le droit de grève hein, par exemple, et ben, ce droit de grève il est reconnu que dans un gros tiers des 141 nations qui sont étudiées, ça fait pas beaucoup quand même. Mais en plus, donc, la tendance serait à la régression, y compris dans les régions du monde plutôt favorables aux syndicats comme l'Europe. Donc là, on s'étrangle un peu. On se dit, quoi, une régression sur les droits du travail? Bah, évidemment, c'est ce qui se passe actuellement en France. Le nombre de pays où les syndicalistes font l'objet de violences, de menaces ou sont assassinés est de fait en augmentation rapide. Il y en a plus d'une cinquantaine en 2016. Et j'ouvre les guillemets sur ce qu'ils nous disent. La répression des droits des travailleurs et travailleuses va de pair avec un contrôle accru exercé par le gouvernement sur la liberté d'expression, de réunion, ainsi que d'autres libertés civiles fondamentales. Et un nombre trop élevé de gouvernements cherchent à consolider leur propre pouvoir, étant souvent aux ordres des grandes entreprises qui considèrent généralement que les droits fondamentaux sont incompatible avec la recherche du profit à n'importe quel prix. Voilà un parallèle entre la baisse des droits des travailleurs travailleuses et puis le fait de vouloir serrer la vis. Alors juste pour voir un petit peu quels pays s'en sortent pas très bien, ils ont mis au point un indice et on sera pas surpris d'imaginer que la Chine est dans les pays pas fantastiques. Les États-Unis ont un indice de 4 sur 5 sur les droits du travail, alors quand t'es à 1 c'est que ça va, et quand t'es vers 5 c'est plutôt la catastrophe. Donc les États-Unis c'est pas génial. Et parmi les 10 pays les pires pour les droits des travailleurs travailleuses, évidemment c'est des pays qui se font une spécialité d'accueillir les usines en bas de chaîne de la mondialisation, comme la Chine, le Cambodge ou la Turquie. Et puis on y trouve, et c'est là l'Observatoire des multinationales qui parle, on y trouve aussi le Qatar, où sont impliquées des grandes et reluisantes et valeureuses entreprises
françaises
de BTP. Alors, syndicats et défenseurs des droits de l'homme, ils dénoncent l'exploitation forcenée des ouvriers sur les chantiers, donc toujours au Qatar. Des migrants qui sont souvent venus d'Asie et qui sont privés de leur passeport. C'est assez sympa, on leur prive de leur passeport et ça les permet de les faire travailler de façon proche de l'esclavage. Voilà. Et c'est l'ONG Sherpa qui a d'ailleurs porté plainte contre Vinci pour des atteintes aux droits humains de ses travailleurs. Mais par contre, du coup, Vinci, ils ont dit que pas du tout. Et ils ont porté eux 6 plaintes pour diffamation ou atteinte à la présomption d'innocence. Voilà. Donc il y a un dossier qu'on peut retrouver donc, sur cet observatoire des multinationales qui parle des conditions de travail sur les chantiers du Qatar. Quel rôle de Bouygues et de Vinci, on imagine que c'est pas des rôles de faiseurs de bien, quoi.
Et ben, vous allez voir, on va arriver à vous faire le Canu Info en entier, tout en speed, dans les 20 premières minutes après 19h. En tout cas, moi, j'en suis au nouvel essai du missile M51. Qui c'est qui va faire ça? C'est là. France.
Ouais, parce que il paraît que ça va très très bien cette année. Il y a de nombreux articles qui ont précisé que pour la France, l'armement cette année, c'était vraiment
c'est
extraordinaire.
On est en train de sauver l'emploi, l'industrie française, tout ça, grâce au fait qu'on vend à la terre entière de quoi s'entretuer, mais à fond, quoi.
Voilà.
Et il suffit pas que la terre entière s'entretue. Il faut quand même que nous, on puisse massacrer tout le monde si on a envie. Et donc, la France possède actuellement, dans ce but-là, le 3e arsenal nucléaire du monde. Et là, elle est propriétaire de 300 ogives nucléaires, chacune d'une puissance 10 fois supérieure à celle de Hiroshima. Donc, la France, si mes calculs sont bons, a de quoi faire 3000 fois Hiroshima quand elle veut comme ça. Tac ! Après 2 décennies de réduction du nombre d'armes nucléaires, la reprise de la course aux armements pour leur modernisation menace aujourd'hui plus que jamais l'humanité. Et la France donc s'y est lancée, mais alors tête baissée, quoi, avec le laser mégajoule qui est un projet, le laboratoire Épure à Valduc, le missile M51, l'ogive nucléaire TNO et d'autres projets encore masqués par le secret défense, mais qu'on va apprendre petit à petit pour une part d'entre eux en tout cas.
Et ça a l'air génial, je veux dire, c'est le côté reluisant de la nation française que tu es en train de critiquer.
Mais, non, mais attends, je ne critique rien du tout. Et donc, le gouvernement va faire là, ces jours, un nouvel essai de son nouveau missile M51. Alors ce missile, c'est quoi? Eh ben lui, il est capable d'embarquer une puissance de frappe de 60 fois, celle d'Hiroshima pour le coup, c'est pas 10 fois hein, le truc dont on parlait tout à l'heure, cette fois-ci c'est 60 fois. Il est capable de l'embarquer à 9000 km de distance, et il coûterait tout bêtement 120 millions d'euros le missile.
Ouais.
Alors, une frappe nucléaire, bah, c'est quelque chose qui reste possible à tout moment en réalité, parce qu'il y a des gens qui sont en mesure de le faire, quoi. Et donc, nous dit sortir du nucléaire, ni la paix ni notre sécurité ou celle du monde ne sont assurées par les arsenaux atomiques. Ça semble être une sorte d'évidence, mais en même temps, ils ont quand même raison de le préciser, vu qu'il y a toute une doctrine qui est basé là-dessus, sur le fait que si tout le monde a de quoi vraiment complètement exploser la gueule de son adversaire potentiel, personne n'osera tonne. C'est une doctrine qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a qu'à voir autour de la planète comme la paix est assurée depuis qu'il y a l'arme nucléaire. Et effectivement, jusqu'à maintenant en tout cas, personne, à part les États-Unis en 1945, personne ne l'a encore utilisé jusqu'à maintenant. Il faut quand même se rendre compte qu'un pays, une fois qu'il a l'arme nucléaire, peut finir par élire à la présidence un quelconque dingue comme en Corée du Nord, vous croyez que je vais dire non, comme peut-être le prochain aux États-Unis, hein, selon qui arrive. Mais en tout cas, si ça se trouve, Donald Trump, à un moment, il aura la petite clé qui lui permettra de tirer une bombe nucléaire sur qui il a envie. En France, personne n'est complètement assuré de qui sera la prochaine présidente de la République. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a quand même un paquet de cinglés qui peuvent potentiellement arriver aux commandes de pays qui sont assez puissants pour avoir l'arme nucléaire. Et face à cette menace, quand même plus d'une centaine d'États demandent, exigent, dans la mesure où ils ont la capacité, un traité d'interdiction des armes nucléaires, un traité d'interdiction de toutes les armes nucléaires pour tout le monde. Et donc ils se réunissent à l'ONU pour en poser les bases. Et la France, bien sûr, refuse complètement de participer à ce genre de réunion. Bah, d'autant plus qu'elle a déjà l'arme nucléaire, alors elle n'aurait pas très envie qu'on lui interdise son petit jouet. Et donc l'État français impose l'arme atomique à toute sa population. Elle impose l'arme atomique, ça veut dire qu'elle impose sa dangerosité, ses nuisances et aussi la thune que ça coûte pour le maintien et pour la modernisation de l'arsenal. La dissuasion nucléaire reste quand même un vrai gouffre financier et un gaspillage de la thune qui pourrait servir à des choses utiles. Et là, je ne parle pas de payer plus de matraques au CRS, mais en réalité, il y a quand même aussi quelques trucs utiles à faire avec l'argent public. Hein. Là, en l'occurrence, pour nucléaire, c'est 3,6 milliards d'euros qui sont dépensés pour ça chaque année. Les projets de renouvellement et de modernisation vont nécessiter de toute façon d'augmenter cette dépense. On devrait arriver à 6 milliards d'euros par an que l'État français va dépenser pour ces armes qui donc sont censées ne surtout jamais servir. Pendant ce temps, on coupe les crédits de toutes les assos qui font des trucs intéressants. On coupe les crédits de l'hôpital public, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la case d'hôpital public. Parce que c'est la crise, parce que l'État n'a plus de fric. Et c'est aussi pour ça que, plus de thunes pour les chômeurs, plus de thunes pour les malades, plus de thunes pour personne. Et au-delà du gaspillage d'argent public, un certain nombre de banques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, AXA, Natixis, financent de toute façon les multinationales de l'armement, comme Thales, EADS, Safran, et se rendent, d'après Sortir du Nucléaire, incontestablement complices de la bombe atomique. Alors pour mettre fin à toute cette merde, le réseau Sortir du Nucléaire dénonce ces investissements insensés, bien sûr, et invite chacun à participer aux actions qui vont être mises en œuvre à partir du 2 juillet prochain. Le 2 juillet, c'est quoi? C'est le jour du 50e anniversaire du premier essai aérien en Polynésie française.
Et on peut continuer du côté du nucléaire avec un appel à participation à un grand pique-nique. Ça se passe le 19 juin, donc c'est dimanche, dans la forêt de Mandres en Barrois. C'est contre l'implantation, alors c'est dans le même esprit, hein, l'implantation illégale de la méga poubelle nucléaire Cigéo. Donc c'est ce qui se passe du côté de Bure. Vous savez, c'est ce projet de construire un énorme truc souterrain qui permet de mettre les déchets nucléaires qu'on a produits depuis une quarantaine d'années sans se poser la question où est-ce qu'on allait les mettre quand même. Et
on a toujours trouvé des réponses extrêmement passionnantes.
Voilà. Et pour aller vers le texte de l'appel à participation à ce pique-nique, je vous lis tout ça. Depuis mai 2016, l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, a commencé des travaux de forage dans le bois communal de Mandres en Barrois, qu'elle s'est accaparée en juin 2015 au mépris de la volonté des habitants. Donc c'est bien le bois communal que cette Agence nationale pour la gestion des déchets a accaparé. Cette zone est hyper stratégique pour l'agence car elle construirait sur près de 300 hectares une zone des puits qui permettrait de ventiler les 300 km de galeries à 500 mètres en dessous du sol. Donc c'est un endroit absolument crucial pour ce projet de méga poubelle nucléaire dont le petit nom c'est Cigéo, hein, mais c'est donc la poubelle de Bure. Alors, faut quand même préciser qu'un recours juridique des habitants est en cours, mais c'est une jolie plateforme barbelée qui est construite. Il y a des camions foreurs qui sont à l'œuvre et des vigiles qui gardent le bois en permanence, d'où leur appel de refusons cette destruction de la forêt communale. Sortons du bois, sauvons la forêt de Mandres et empêchons le projet de poubelle nucléaire. Et de conclure, si l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, s'installe aujourd'hui en dépit de l'opposition des habitants, c'est pour couper les bourgeons de résistance à son accaparement des forêts et des terres agricoles. Nous devons au contraire faire fleurir notre refus. J'ajoute que dans les bonnes librairies du côté de Lyon, on peut retrouver une petite documentation qui s'appelle 14 raisons de s'opposer au projet Cigéo Bure. Alors 14, ça fait quand même beaucoup. Je les ai lus. C'est tout bon, hein. Il y a bien 14 raisons au moins de dire stop à cette espèce de poubelle qui est soi-disant de nouveau sans risque, mais qui, entre autres problèmes, pourrait être sujet à des petits incidents. En plus, il faut l'alimenter par des trains qui viennent régulièrement. Donc eux-mêmes, les trains pourraient avoir des accidents. Et c'est pas un problème de locomotive, c'est que si le train transporte des déchets, ça pourrait entraîner des emmerdes, comme on dit. Voilà, donc un grand nom à ce projet Cigéobure, bah, grand pique-nique dimanche 19 juin.
D'autant plus que le nucléaire, ce slogan qui existait dans les années 70, au moment où c'était vraiment la question de commencer à s'embarquer dans le nucléaire, qui était société nucléaire, société policière, c'était un slogan qui voulait dire quelque chose, et qui voulait dire entre autres qu'une fois qu'on est parti dans une manière de faire de l'énergie aussi dangereuse, aussi massivement dangereuse, avec des installations qui sont aussi dangereuses, on est obligé de les méga surveiller. Parce que quelqu'un qui voudrait faire beaucoup de mal, une des choses relativement malines qu'il aurait à faire, c'est de s'attaquer directement à des centrales nucléaires, mais aussi éventuellement à des poubelles nucléaires. Et là, par les temps qui courent, des gens qui ont envie de buter plein de monde, on dirait que ça se multiplie comme des petits pains. Ça, c'est une raison parmi un milliard de raisons. Mais aussi, ce qui est intéressant, si toi, tu as la brochure sous les yeux, est-ce que peut-être tu peux retrouver le temps pendant lequel des déchets nucléaires sont dangereux ?
Alors, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 100 000... Cigéo serait un chantier de construction remplissage simultané pendant 130 ans. Donc ça, c'est juste pendant 130 ans, il ferait appel, donc ils utiliseraient...
Ça, c'est le temps pendant lequel on va remplir le sous-sol.
Voilà, et après, j'ai pas le temps, mais c'est de l'ordre...
En sachant... Ouais, vas-y.
Bah, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'années.
Oui, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années. Ça, c'est sûr, c'est plusieurs centaines de milliers d'années. Alors, il faut bien dire que le sous-sol, on choisit des endroits où le sous-sol est censé pas trop bouger. C'est déjà arrivé qu'ils fassent ça et puis qu'ils se rendent compte qu'en fait, si, ils bougeaient un petit peu. Tout ça en quelques dizaines d'années. Là, on parle quand même de trucs qui vont être dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Mais vous savez qu'ils sont obligés de se poser des questions aussi incroyables qu'une langue humaine. Ça dure en moyenne quelques siècles.
Une langue ?
Une langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le latin, il y a plus grand monde qui le comprend. Mais encore le latin, il y a un petit peu des gens qui le comprennent. Mais les langues, la langue d'où est issue le latin, qui est l'indo-européen, il n'y a quand même plus personne qui a une idée de ce à quoi ça ressemblait. Ça veut dire que pour indiquer l'endroit où on fait une poubelle nucléaire, la question de savoir comment est-ce que dans 5000 ans, dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans, en sachant que là on parle de plusieurs centaines de milliers d'années, comment est-ce que les gens ou les on ne sait trop quoi qui seront sur la planète à ce moment-là pourront savoir que s'ils creusent à cet endroit, ils vont se pécho des sales cancers ? Et ben ça par exemple, c'est une question qui n'est pas entièrement résolue.
Du coup, plus personne qui veut faire archéologue.
Eh ben, en tout cas, dans 100 000 ans, évitez de faire archéologue. laissez comme instruction à vos descendants d'éviter absolument de faire archéologue dans 100 000 ans ou d'ailleurs de creuser un trou où que ce soit sur la planète.
Voilà, donc d'après la brochure, on parle bien de 100 000 ans. Allez, on reparle de travail avec un nouveau slogan du côté de la Finlande qui pourrait nous inspirer. Il s'agit de travailler plus sans gagner plus. Voilà, donc ça a été réglé mardi 14 juin.
Ah bah oui, la loi travail, elle sert à ça.
Oui, mais là, c'est en Finlande, tu comprends. Et ils sont un peu en avance de phase et ça s'est passé mardi 14 juin. Voilà, les principaux syndicats et le gouvernement finlandais ont signé, donc hier... un accord obligeant la plupart des salariés eux, à travailler plus sans gagner plus dans l'espoir, alors j'ouvre les guillemets, de doper la compétitivité de la Finlande après des années de marasme. Donc il y a des années de marasme, ça va pas du tout. Et alors le truc qu'ils ont trouvé, c'est de faire travailler les gens 3 jours de plus, mais gratuitement, tu vois. Et alors, théoriquement, ça va avoir un impact sur la compétitivité, puis ça va créer, alors ils y vont à grand renfort de chiffres, ça devrait, alors selon le ministère des Finances finlandais, la Finlande peut espérer 35 000 créations d'emplois d'ici à 2020. Voilà. Donc vous faites travailler tout le monde 3 jours de plus, et de fait, ça va créer 35 000 emplois. Donc, il y a d'autres types de calculs qui disent que si tous les gens qui travaillaient, on leur avait enlevé 4 heures de leur temps de travail, on aurait pu de fait le redistribuer à celles et ceux qui n'en ont pas, et on aurait peut-être pu créer probablement plus
parce
que 35 000.
Ce qu'il y a de malin aussi dans augmenter la compétitivité en faisant travailler les gens plus et gagner moins, parce qu'effectivement du coup ça augmente la compétitivité en Finlande, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui vont devoir s'aligner pour être compétitifs aussi, alors peut-être qu'ils vont aussi augmenter le temps de travail et diminuer la paye. Du coup finalement la Finlande ne va pas créer 20 000 emplois là.
Alors, on est à 35 000.
35 000 emplois, puisque d'autres pays vont à nouveau eux-mêmes être plus compétitifs. Du coup, la Finlande va refaire travailler les gens plus. Et avec ça, on peut quand même se dire que si tout va bien pour la compétitivité, Avec un processus pareil, à la fin, tout le monde devrait se retrouver à travailler 24 heures sur 24 en étant payé que dalle. Comme ça, au moins, la compétitivité, elle sera à fond.
Voilà, je crois que ce sera d'une grande importance pour notre objectif de créer 110 000 emplois et de porter le taux d'emploi à 72%. C'est le Premier ministre centriste, Juha Sipilä, qui propose donc de travailler plus sans gagner plus.
Et vas-y donc.
On va ouvrir une page lecture, suggestion.
Ah, la
lecture.
Fameuse BD dont tu voulais nous parler il y a déjà 15 jours.
Alors, deux suggestions de lecture, juste pour préciser que un jour, l'édition de juin 2016 du journal CQFD est disponible. Alors, elle est peut-être disponible depuis très longtemps, mais juste pour vous aguicher, il se trouve que le titre c'est « On a identifié le chef des casseurs ». Et que la photo de ce chef des casseurs est en première page de ce journal. Je vous invite donc à y aller. Vous découvrirez donc l'identité de cette personne. Voilà, une suggestion de lecture assez sympa. Il s'agit d'une BD qui s'appelle Dolores de Bruno Lott. Et je vous propose d'en parler pour vous proposer de soit l'acheter, soit de vous le procurer dans les bibliothèques. Alors voilà, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Nathalie. Et voilà, qui voit sa maman qui a de l'ordre de 70-80 ans, qui est dans un hôpital pour personnes âgées, qui du jour au lendemain veut se faire appeler Dolores. Et puis du jour au lendemain, elle se met à parler en espagnol, alors que jamais elle n'avait évoqué une quelconque apprentissage de l'espagnol, de la langue espagnole, dans les années précédentes. Donc en fait, il se pose des questions, et du coup cette Nathalie, donc de 40-50 ans, se dit qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans l'enfance de sa maman, et elle décide d'aller du côté de l'Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va en même temps découvrir une partie de l'histoire de l'Espagne qui concerne sa maman, dont je vais vous parler, puis en même temps elle va assister à ce qui s'est passé, donc c'était en 2015, à ce qui s'est passé pendant les élections espagnoles avec l'émergence de Podemos. Donc il y a en même temps l'histoire actuelle, Podemos, et donc l'Espagne vivante des années 2015, et puis donc ce qui s'est passé dans les années 30-39 qui concerne sa maman. Alors ce qu'on découvre, sans vous en dire plus, à propos de cette grand-mère, c'est que c'est une réfugiée de la retirada qui a eu lieu dans les années 30. Alors je vous explique un petit peu comment ça se passait. Il y avait Franco qui commençait à être maître de la situation, et donc l'étau se resserrait très fort sur la partie centrale du pays. Il y avait une zone centre-sud qui regroupait Madrid, Valence et Alicante, qui était encore la poche où étaient encore présents les républicains. Barcelone venait de tomber en décembre 1938, et en février 1939 il y a eu un petit micmac au niveau du contrôle de ceux qui géraient la partie républicaine. Il y a eu des gens qui ont voulu pactiser entre guillemets avec Franco, en disant voilà, on lâche les armes et puis on laisse tout le monde se retirer. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Juan Negrín, accompagné de communistes, qui a dit non, qui a fait un putsch et qui a essayé de faire en sorte que l'îlot républicain soit maintenu contre Franco. Et puis ce gouvernement-là a été renversé par un colonel, le colonel Casado, qui a juste dit à Franco: écoute, de toute façon, il n'était pas en mesure de négocier. Franco voulait rien négocier. A juste réussi à obtenir de Franco que, eh bien, quiconque avait envie de se barrer pouvait se barrer. Et donc, c'est ça, la retirada. Alors, et les gens se sont dirigés du côté de la frontière française. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément été bien reçus. Et puis, il s'est passé quelque chose du côté d'Alicante. Il y a près de 20 000 personnes qui se sont retrouvées. Donc, la date exacte, c'est le 29 mars 1932, qui ont fui donc cette poche de résistance républicaine. 20 000 personnes qui se sont retrouvées à Alicante dans le but de
32
pardon non 39 le 28 mars 1939. Voilà. Ils ont espéré que des bateaux allaient les évacuer, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y en a 15 000 qui ont été chopés parce qu'ils n'ont pas réussi à partir. Et puis, il y a eu un bateau qui s'appelle le Stanbrock, qui était normalement destiné à embarquer de l'ordre de 800 à 900 passagers, qui a embarqué près de 3 000 personnes pour les envoyer du côté d'Oran. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été hyper bien reçus. Et donc, c'est en toile de fond cette tragédie de ces hommes et ces femmes, donc de l'ordre de 20 000, qui étaient au bord de la mer et qui étaient coincés entre la mer et Franco. Il y en a 5 000 qui ont réussi à aller du côté de l'Algérie. Et puis les autres, ils se sont retrouvés dans des camps de détention que vous imaginez, on ne peut plus odieux. Voilà, donc c'était les premiers camps d'internement franquiste. Toute cette histoire de la retirada, donc, qui est en toile de fond de cette BD qui s'appelle Dolores, dans l'édition La Boîte à Bulles.
Tu peux nous redire le nom de l'auteur ?
Alors, La Boîte à Bulles, Bruno Lott, Dolores. Voilà, d'ailleurs en particulier imprimé dans des imprimeries espagnoles.
Et ben voilà, on dirait que ça va être l'heure de laisser l'antenne à Idée Noire. Ah non, pas tout à fait.
Ah mince, on s'est trompé de timing.
Tant
pis.
Quand même déjà terminé, alors on va vous laisser avec un petit peu de la musique des très fameuses bandes continues de Radio Canu. Ciao.
Merci de nous avoir écoutés. Ciao. À la semaine prochaine.